Voilà, bienvenue à tous. Et nous allons partager un temps autour de l'écriture. J'ai demandé à Lucie de le lire. Alors, on ne va pas afficher le texte. On va écouter Lucie nous lire un récit que je considère comme étant un récit fondateur, là aussi, pour l'Évangile, le salut, et particulièrement pour les non-juifs que nous sommes. Et donc, je trouvais intéressant de l'écouter simplement. Voilà, tu as là, puis tu as le dernier verset en haut.
Oui, c'est pareil que toi. Oui.
Non, tu es juste là, tu commences là.
Ok. Alors, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui.
Merci. Je trouve que prêcher l'Évangile, c'est un privilège. Alors, pas parce qu'à un moment donné, on se trouve devant une assemblée, mais parce que pendant quelques heures, n'est-ce pas Michel, Francine et d'autres qui ont ce privilège d'apporter la parole, eh bien, on se plonge dans l'Écriture et dans les mystères de Dieu. Il est dit que les anges eux-mêmes n'ont pas le privilège que nous avons de plonger nos regards dans le salut que Dieu accorde aux hommes. Waouh ! Et j'étais assis à mon bureau pendant plusieurs heures, d'abord pour chercher qu'est-ce que je pouvais vous donner à manger ce matin. J'ai bien préparé du chili con carne, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais à mon bureau, j'ai repensé à ce texte-là il y a une quinzaine de jours sur la Samaritaine. Et c'est un texte qui est un texte fondateur pour, je dirais, l'Église que nous sommes, les chrétiens et non-juifs que nous sommes. Il y a sur le bureau de l'ordinateur un petit PowerPoint avec une carte. Alors, je vais juste vous... le temps que Valentin nous trouve cela, avec un fichier avec la date d'aujourd'hui, donc je crois, et qui reprend, c'est juste une diapo pour vous faire voyager un petit peu avec le Seigneur. Dès que vous l'avez, vous me dites, voilà. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, il est dit que Jésus passa en Samarie et qu'il s'assit sur la margelle d'un puits ou au bord d'un puits parce qu'il était fatigué. Moi, je me dis, bon, pourquoi il était fatigué ? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il soit fatigué ? Or, souvent, le texte de la Samaritaine est présenté comme une exception dans le fait que Jésus ait fait le choix de passer par la Samarie et qu'il s'arrête, je dirais volontairement, en ce lieu où il y a le puits de Jacob et qu'il se pose là parce qu'il a fait quelques kilomètres. Or, je me suis juste amusé, dans la lecture des premiers chapitres, de voir où se situe le parcours de Jésus. Je ne sais pas si ça marche. J'ai un point rouge, vous le voyez du fond ? Oui, quand même. Au chapitre... du coup, moi, j'ai du mal à le voir. Voilà, c'est bien mieux. Eh bien, au chapitre 1, au verset 28, il est dit que Jésus était du côté de Béthanie. Béthanie, c'est là. Alors, hop là, je vais... Oh, formidable. Oh, s'il y a la flèche, encore mieux. Voilà. Il est là, alors... il n'est pas... En fait, il n'est pas là où tu mets ta flèche, mais... juste un petit peu à droite, voilà, presque, rapproche-toi du Jourdain, là, tu as fait un kilomètre de trop, c'est bon, mais c'est à peu près là. Il y a deux Béthanies, et il y a un Béthanie qui est juste à côté, là, du côté est du Jourdain, et qui s'appelle Bétabara. Et Bétabara est appelé aussi Béthanie. Et donc, Jésus, au chapitre 1, verset 28, il est dit qu'il y a le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus, et il voit Jésus s'approcher avec ses disciples à Béthanie, mais à Béthanie, Bétabara. Au chapitre 1, verset 43, le lendemain, il voulut se rendre en Galilée. Où est la Galilée ? Montre-nous la Galilée. Ah, tout en haut ! C'est-à-dire que s'il est parti de Béthanie, Bétabara, pour aller en Galilée, quelques versets plus loin, il a fait quelques kilomètres. On considère qu'on est là sur une distance de 100 à 120 kilomètres à pied. Qui d'entre vous a déjà fait dernièrement 120 kilomètres à pied ? Non, Fabrice ? Non ? Oh, je suis déçu, je te croyais sportif. Hein ? Non, on a un ex-coureur de marathon et d'Ironman Tour. Plus grande distance, c'était ça à peu près ? 42. Ah oui, 42. Petit bras. Donc, 100, on dit 120 km par la route actuellement. Pour aller de cette distance-là, ça fait 130 km par la route actuelle. Donc, une fois qu'il est allé là, il est allé en Galilée, il va aux noces de Cana, au chapitre 2, verset 1, et de Cana, il part à Capernaum. Capernaum, c'est un petit peu... Voilà. Et là, il part à 38 kilomètres après les noces de Cana. Et une fois qu'il est parti, il est arrivé à Cana, il va à Jérusalem. Trouve-moi Jérusalem. Hop ! Donc, il est repassé par la Samarie. Et il va à Jérusalem à 100 kilomètres. On n'est qu'au chapitre 2 de l'évangile de Jean. Donc on est déjà au moins à 300 km à pied. Et ensuite, il va dans les terres de Judée. Donc ça veut dire qu'il va dans cette région-là, il tourne là pour annoncer, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et là, il est dit, selon Jean, qu'il était avec ses disciples et qu'il baptisait. C'est ce qu'il est dit au chapitre 4, verset 2. Ensuite, il part de la Judée au chapitre 4, verset 3. Donc, quelques jours après, c'est 3, 4, 5 jours après, il part de la Judée vers la Galilée. On y retourne. Donc, il repasse à nouveau par la Samarie. Et il s'arrête à ce moment-là à Sichar. Donc, Sichar, c'est l'ancienne ville de Sichem en Samarie. Tu dois retrouver ça. Il part de Judée et Sichem doit être ici à proximité, voilà, à côté du mont Garizim. Et là, il a fait 30 km avant de retourner en Galilée. Donc 350, 400 km. Il était un peu fatigué. Non, vous ne seriez pas fatigué. Vous auriez fait ça en voiture. Hein ? Je trouve intéressant de voir, d'inscrire le récit de l'Évangile sur le terrain et de voir tout le chemin que Jésus a parcouru. Et lorsqu'il remonte, en fait, de Judée, où il a annoncé l'Évangile, pour aller en Galilée, il passe par la Samarie pour la xième fois, c'est-à-dire qu'il a fait des allers-retours entre la Galilée en haut, la Judée et Jérusalem, et à chaque fois, il est bien obligé de passer par la Samarie. Donc, le récit de rencontre avec la Samaritaine n'est pas un récit, je dirais, unique et un passage unique de Jésus dans cette région-là. Vu l'actualité, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, vous voyez, ça, c'est en bleu les limites d'Israël et de la Galilée, etc. Et que, très étrangement, la zone qui n'est toujours pas sous l'influence d'Israël, c'est la bande de Gaza. Et ça, c'est Israël du temps de l'époque de Jésus. Donc, on a le Christ qui parcourt ce terrain-là. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si vous lisez les 4 à 5, les 7 premiers chapitres de l'Évangile de Jean, c'est la première partie de l'Évangile, mais lorsque vous lisez les 4 premiers chapitres, vous voyez qu'il fait l'aller-retour entre la Judée, qui est la séparation, j'ai envie de dire, du royaume du sud par rapport au royaume du nord, lorsque les rois se sont séparés en Israël, quand vous lisez les livres des rois, vous avez Jérusalem, vous avez Emmaüs, vous avez toute une région que vous connaissez. Et quand vous lisez les premiers chapitres de l'Évangile de Jean, vous vous rendez compte qu'il y a de l'opposition en permanence et que les choses se passent, j'irais presque dans le tête-à-tête, dans l'opposition, dans la réaction des pharisiens, etc. Le chapitre précédent, le texte de la Samaritaine, c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème, de nuit, en cachette, à Jérusalem. Et en fait, quand il va en Galilée, il le dira lui-même, nul n'est prophète en son pays, parce qu'il va à Nazareth, dans les environs, et en fait, que ce soit en Galilée, que ce soit en Judée, il n'est pas reçu, il n'est pas accueilli. Alors en quoi ce texte-là est intéressant ? C'est qu'il y a un constat d'incrédulité qui, dans le ministère de Jésus, est présent dans les 12 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Vraiment une incrédulité qui ne permet pas aux Juifs de recevoir la venue du Messie. Pour beaucoup d'observateurs de l'Évangile qui ont étudié l'Écriture, les lieux où Jésus a manifesté son ministère de manière vraiment prépondérante sont circonscrits à 5 espaces. C'est pas beaucoup. 5 espaces. Nazareth et la Galilée. La vallée du Jourdain, parce qu'il était très présent tout au long de la vallée du Jourdain. Vous voyez, la vallée du Jourdain, c'est ce qui est ici en bleu. Et donc, il sépare la mer de Galilée jusqu'à la mer morte. Et donc, dans cette vallée-là, Jésus a beaucoup marché, annoncé le royaume de Dieu. Un autre espace, c'est la Samarie. Et enfin, la Judée et Jérusalem. Voilà les 5 régions dans lesquelles Jésus j'irais presque imposé pour annoncer le royaume de Dieu. Et la Samarie, qui nous occupe aujourd'hui. C'est un site important avec son village, je dirais, hérétique ou schismatique, puisqu'ils se sont séparés du judaïsme en ayant leurs propres écrits, en rejetant Jérusalem, le temple, le culte, etc. Donc il y avait une vraie opposition, une vraie séparation. Et pourtant, même si les Samaritains adoraient Dieu sur le mont Garizim et non plus sur le mont du temple, etc., à Jérusalem, Samarie, elle est le symbole dans l'Écriture et dans l'Évangile du monde des non-croyants, des non-juifs. C'est étrange que Jésus, un juif, vienne, passe, repasse et s'arrête au milieu des Samaritains. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce village auquel le Sauveur apporte un message d'adoration en esprit et en vérité, en disant à un moment donné, il y a un temps où ça sera ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Et il y a un mot qu'il dit, le jour vient. Le jour vient. Et j'ai envie de dire que ce texte-là nous renvoie, vous savez, à cette demande d'une femme syrophénicienne, donc étrangère, qui, ayant un enfant malade, s'approche de Jésus et puis lui demande d'intervenir. Et Jésus dit une parole qui nous choque souvent à première lecture. Il dit, mais est-ce que je suis là pour donner le pain aux chiens qui sont là ? Hein, je suis pas là pour ça, moi. Une manière de dire, je suis venu pour annoncer le salut au peuple d'Israël, Judée, Galilée, etc. Et puis, en fait, c'est une manière de faire que cette femme puisse dire sa foi tout en étant étrangère. Elle dit, oui, mais si les petits chiens passent sous la table, ils peuvent manger le pain qui tombe. Sous-entendu, je sais que ce qui est là est plus important que tout le reste. Et même si je dois venir à genoux, je viendrai à genoux. Et en fait, Jésus, contrairement à ce qu'une première lecture pourrait laisser penser, n'est pas contre le fait d'annoncer l'Évangile aux païens, mais il est là pour, en tant que Messie, donner à Israël la possibilité de le recevoir comme Messie et de rentrer dans son appel. Israël devait accueillir le Messie. Tout l'Ancien Testament prépare Israël à recevoir le Messie, afin qu'Israël non pas se rengorge en se disant « nous sommes les meilleurs », mais puisse rentrer dans son appel qui est d'être le peuple qui va transmettre au monde le message d'amour du Dieu vivant. Ça, c'est l'appel d'Israël. C'est pas d'être un peuple élu pour être le meilleur, mais un peuple qui soit utilisé par Dieu pour être un messager de paix. Et en fait, Israël, on le voit bien dans les quatre premiers chapitres de Jean, va refuser de rentrer dans son appel. Et le fait que Jésus s'arrête à Samarie est un moment important. Il est en train de s'asseoir sur la margelle d'un puits, pas n'importe quel puits, puisque c'est le puits de Jacob. Et si vous vous rappelez un message que j'ai apporté il y a quelques mois, un texte que je considérais aussi comme fondateur, c'est un puits qu'Isaac avait creusé et qu'il a légué à son fils, et un puits qui a été appelé dans la Genèse un puits d'eau vive. Tiens, d'eau vive. Or, le texte et les paroles de Jésus à la Samaritaine, c'est bien de pouvoir recevoir une eau vive. Elle puise sans le savoir dans ce puits qui est dit, présenté par Isaac comme un puits d'eau vive, mais sans savoir que c'est un symbole de ce qui va arriver, la possibilité d'être touché par le salut et que le Saint-Esprit soit aussi non seulement Jésus, mais le Saint-Esprit un don de Dieu. Alors, souvent on discute avec les techniciens en disant quel serait le titre de la prédication, eh bien aujourd'hui, le titre, ce serait « Si tu savais le don de Dieu ». Parce que c'est ça qui m'a interpellé au début, lorsque j'ai relu et re-relu ce texte, c'est cette question que Jésus pose à cette Samaritaine. « Si tu savais le don de Dieu ». Alors, j'ai oublié ma... Ah si, je pensais que j'avais perdu une page. Ce passage de Jésus en Samarie, c'est un passage où il s'arrête au milieu des païens, de ceux qui ne devraient pas avoir le droit, comme la Syrophénicienne, à recevoir le salut de Dieu. Les Juifs ne pouvaient pas fréquenter les Samaritains. Alors, il y avait un contentieux lourd, j'avais évoqué il y a quelque temps le fait que, par provocation, les Samaritains avaient balancé de la viande de porc dans le temple, dans la cour du temple, et que ça avait fait un tollé général, que les Samaritains avaient été considérés comme des populations irrespectueuses, des adversaires, etc., qui avaient souillé le lieu saint. Et donc, normalement, il n'y avait pas de relation. Il y a un tout petit écrivain qui s'est spécialisé dans le théâtre, qui, à la fin du XIXe siècle, a écrit une scène sur la Samaritaine. Vous avez déjà vu ça, non ? Oh, c'est un tout petit. Il a fait une petite pièce. Comment ça s'appelle déjà ? Si, c'est pas si tu savais le nom de Dieu. Cyrano de Bergerac, ça vous dit quelque chose ? C'est un petit écrivain. Il paraît que sa pièce est la plus jouée dans le monde entier depuis un siècle. Et Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, a écrit une pièce et je relisais la lettre de remerciement qu'il avait envoyée à Sarah Bernard, cette actrice qui avait une grande propriété à Belle-Île, qui était la plus grande actrice de son temps. Et Sarah Bernard a joué La Samaritaine, une pièce en trois actes avec quantité de personnages. Alors il y a plein de fioritures. Quand on voit le texte de La Samaritaine dans l'Évangile de Jean, je dis, il en a fait trois actes à partir de ça. Donc c'est dire s'il a brodé autour. Hein. Mais j'ai relu quelques passages et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, au tout début, dans le premier acte, il y a, je crois que c'est Pierre qui interpelle Jésus en disant, mais comment ça se fait que, vous rappelez ce passage dans l'Évangile de Jean, ils n'ont pas osé interroger Jésus en lui demandant ce qu'il discutait et ce qu'il disait à cette femme et de quoi était le sujet de leur conversation. Eh bien, Edmond Rostand a découvert ça. Et il fait dire à Jésus, pour répondre à Pierre, qui disait, mais comment ça se fait que tu parles à une étrangère ? Normalement, nous, les Juifs, on n'a pas le droit. Et Jésus lui répond, si je ne vous ai pas parlé, en fait, de ces choses-là, de ce qui se passe, c'était, pour commencer, parce que vous n'aviez pas encore assez large poitrine et je ne pouvais toute y loger ma doctrine. Si je vous avais dit d'aimer jusqu'aux gentils, c'est-à-dire aux païens, vous seriez scandalisés, mes chers petits. Pouvais-je sans danger, dans votre ombre première, faire entrer brusquement tout mon flot de lumière ? À vous, faibles, verser d'un coup tout mon vin fort ? Non, certes, et c'est pourquoi j'étais prudent d'abord. Je filtrais le rayon, je mesurais la dose, je n'osais tout livrer, mais voici l'heure. J'ose. J'aime bien cette dernière phrase. Voici l'heure. L'heure vient. J'ose. J'ose ouvrir le salut, non seulement au peuple qui est censé le porter pour le monde, j'ose aller vers le monde, vers cette Samaritaine, vers ceux que vous rejetez, qui vous sont étrangers, voire adversaires, et j'ose annoncer mon salut. Waouh! J'avoue que j'ai été vraiment très, très touché par ces paroles de Edmond Rostand qui développe l'idée du don de Dieu. Et en fait, cette parole de Christ à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle. Est-ce qu'on peut avoir des dons reçus, des cadeaux, pour utiliser un mot, est-ce qu'on peut recevoir des cadeaux qu'à un moment donné, on considère, ouais, bon, son dernier anniversaire, j'ai offert à ma fille une cuillère, une vieille cuillère qu'on a dans notre tiroir de cuisine depuis 20 ans, presque 25 ans, peut-être même 30, en inox, même pas en argent. Et elle nous avait dit, écoute, papa, maman, si vous voulez me faire un cadeau un jour, ou même pour l'héritage, vous me donnez rien, rien de tout ce que vous avez. J'ai trouvé ça sympa. Elle me dit juste une chose, donnez-moi la cuillère. Pour elle, cette cuillère, c'était la cuillère avec laquelle on a servi le repas à table à nos enfants pendant des années, pendant toute leur enfance. Une cuillère toute simple, je ne sais même pas si c'est une guille de graines pour dire une marque. C'est vraiment en inox, quoi. Elle dit, mais ça, pour moi, c'est cette cuillère, c'est toute mon enfance, toute ma famille. Alors, à son dernier anniversaire, je suis allé dans le magasin de Lorient, vous savez, qui fait de la gravure. Et puis, j'ai fait graver donc un petit mot dessus. C'est en latin, ce qu'il y a sur le cadran solaire, rappelez-moi. Carpe diem, vis l'instant présent. Parce que c'est une formule qu'elle a souvent à la bouche. Et puis derrière, j'ai gravé avec trois petites points de suspension, idem. Non, ça ne vous dit rien. Idem, I-D-E-M. La même chose. Non, ça vous... Non. En fait, ma fille, on avait une culture cinématographique commune avec un vieux film des années 80. C'est Ghost, avec Patrick Swayze et puis une grande actrice. Et puis, lui, il osait, quand elle, l'actrice, lui disait « je t'aime », lui, il n'osait pas dire « je t'aime ». Alors, il disait « idem ».« Idem ». Et ma fille, elle était du genre, le matin, à 7h30, quand je partais en voiture, d'ouvrir ses volets, de crier dans la rue « je t'aime ». Puis moi, comme j'étais dans la rue, je dis « idem ». Donc, il a gravé « idem ». Elle a reçu cette cuillère et elle nous a appelé tout de suite pour nous dire combien elle était... Elle était touchée, bouleversée par ça. Et elle était contente. Elle nous a fait un petit appel. Puis rien de plus, mais elle était contente. Et puis après, il y a sa mère quand même qui dit « Mais t'as lu ce qu'il y avait écrit sur la... » Ah ben non, j'étais tellement contente, j'ai été la prendre, puis j'ai été servir les épinards aux enfants. Puis elle était lire ce qu'il y avait dessus. Et là, elle nous a rappelé bouleversée. C'est un cadeau qui l'a touchée profondément. Pour d'autres, ce serait qu'une cuillère. Est-ce qu'on peut recevoir des cadeaux qu'on néglige et qu'on met de côté ? Si tu savais le don de Dieu, est-ce que cette parole ne s'adresse pas aussi à chacun d'entre nous ? Pas seulement à la Samaritaine. Si tu savais ce que je veux faire, dit Christ, dans ta vie, ce que je veux déposer, ce que je veux guérir. J'ai entendu une prière tout à l'heure que j'ai trouvée très belle. Si tu savais tout ce que Dieu peut faire dans ta vie et dans la prière, voilà, tu n'es pas venu seulement pour me sauver, tu as des plans beaucoup plus étendus, plus grands pour moi. Est-ce que ça, ce matin, tu sais quel est le don de Dieu en Christ pour toi? Si tu savais... Il y a dans le rapport entre la Samaritaine et Jésus un renversement. La Samaritaine arrive avec sa cruche sur le dos, elle arrive au puits de Jacob, c'est un puits qui appartient à la ville, à Sichem, c'est quelque chose qui est à elle et à ceux qui habitent ce lieu. C'est elle qui a l'eau, n'est-ce pas ? Comment peux-tu me demander à moi, comment tu vas me donner de l'eau ? Non, c'est moi. Tu me demandes à boire, toi, un juif, alors que normalement, on ne devrait pas. Il faut relire la manière dont Edmond Rostand traite ce dialogue entre la Samaritaine. C'est savoureux. C'est un petit peu plus étoffé. Hein. Il a fait quand même trois actes. Hein. Mais c'est vraiment savoureux. Mais j'imagine que c'était vraiment cela. Dans l'attitude de cœur, la Samaritaine, elle était chez elle. Elle avait son eau, et l'eau, elle était à elle. Et puis, à un moment donné, un renversement. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire. Et tout d'abord, question d'un don humain, de l'eau, de la Samaritaine, pour le Christ. Et celui qui est Dieu se présente semblable à un mendiant. Et je vous renvoie au livre d'Ésaïe, quand il dit « Il s'est élevé comme une faible plante sortant d'une terre desséchée. Rien de glorieux, rien de merveilleux. Et la Samaritaine, voyant cet homme juif, lui demandait, pas épaté pour un sou. Moi, j'ai de l'eau, j'ai un puits. Mais ensuite, la femme qui se croyait en position de pouvoir, en position d'avoir ce que l'autre voulait, est confrontée, invitée à reconnaître la priorité du don de Dieu et que c'est l'autre qui peut lui donner. Si tu savais quel est le don de Dieu, ce qui nous bloque bien souvent, chers amis, dans notre marche avec Dieu, c'est qu'on y vient avec nos propres puits, nos propres certitudes, nos propres assurances, et que nous ne faisons pas ce mouvement de bascule intérieure en disant « Tout ce que j'ai, fut-il l'héritage le plus profond que m'a laissé Jacob, mes ancêtres, ma famille, ma culture, mon pays, tout ce que j'ai n'est rien à côté du don de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Et la bascule pour la Samaritaine va être une bascule étonnante. Si vous relisez le texte, il est dit que la Samaritaine alla en parler à la ville. La ville s'approcha de Christ et il est dit qu'ils proclamèrent qu'il était le Messie. Le Messie. Venez voir, est-ce que ce ne serait pas... le Christ, c'est-à-dire, elle est déjà là dans cette position de cheminement intérieur. C'est plus simplement un prophète, c'est peut-être le Christ. Et il est dit que toute la ville rentra dans cette logique. Est-ce que ce moment de bascule, chers amis, nous pouvons aussi le vivre chacun pour notre part, laisser tomber nos certitudes, nos avoirs, ce dont nous avons hérité? Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Qu'est-ce qui sème comme désordre, Jésus, quand il arrive? Les pharisiens, les religieux vont réagir. Ce n'était pas comme ça que c'était prévu. Normalement, nous, on doit reconnaître le Messie. Dans le judaïsme, au moment où Jésus a cette discussion, l'eau vive, c'est la Torah, c'est la loi. C'est comme ça que les juifs et les rabbins parlent de la Torah. La loi, c'est ça l'eau vive qui peut nourrir. Ah ouais. Ça m'est arrivé de... non seulement de lire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, mais aussi des passages du Talmud. C'est pas très vivant. Je ne sais pas ce que c'est comme eau, mais ce n'est pas une eau vive, c'est plutôt une eau stagnante, contrairement à l'eau vive qui se régénère. Là, la Samaritaine découvre ce que c'est que l'eau vive. Alors, si tu savais le don de Dieu, est-il dit? Alors, le don de Dieu, il y a deux compréhensions pour comprendre cette formule-là. C'est soit le don que Dieu fait aux hommes, ou le don qu'il fait de lui-même à l'humanité. D'un côté, quand on dit le don de Dieu, on peut le comprendre comme un accent qui est mis sur le destinataire, ou celui qui fait le don, hein, c'est Dieu, hein, qui fait un don. Et puis de l'autre côté, on peut comprendre que le don de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il se donne. Alors si tu savais... quel est le don de Dieu? Et la Samaritaine, en fait, elle reçoit la révélation de la divinité de Christ. Au verset 14, « Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ça veut dire que ce don, ce n'est pas simplement un petit cadeau accessoire, comme ce petit jeu qui est dans un œuf en chocolat, là. Hein, petite surprise. Moi, souvent, quand je regarde les jeux, je dis, oh, il y a vraiment que les enfants qui peuvent s'en réjouir. Hein, si je donne un Kinder surprise à certains d'entre vous, je ne suis pas sûr que vous soyez très emballés en ouvrant l'œuf. Hein, Et parfois, on peut se demander si le don de Dieu, on ne le traite pas un peu comme ça, avec négligence. On ne voit pas tout ce qu'il y a en termes de contenu, de richesse, d'impact sur notre vie. Et ce qui est très étonnant, si vous lisez les évangiles, c'est qu'il est pratiquement rare, exceptionnel, où Christ dit « le Messie, c'est moi ». Hein ? Relisez les évangiles, notamment les synoptiques, Marc, Luc et Jean. Marc, Luc et Matthieu, pardon, j'en ai oublié un. C'est-à-dire ces trois évangiles qu'on peut lire ensemble sur les mêmes colonnes. En fait, il y a très peu de moments où Jésus dit bah, « le Messie, c'est moi ». Il laisse, même au moment de son arrestation, quand il répond à Pilate, il dit « est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Si tu le dis. Mais il ne dit pas « je le suis ». Là, à la Samaritaine, la question qui est posée, c'est « est-ce que tu es celui ?» Et la proclamation est faite par Christ et « c'est moi ». Le Messie, c'est moi. Et en fait, c'est cela, la clé qui permet à la Samaritaine de basculer dans une foi centrée sur Christ, sur ce qu'il est, dont de Dieu. Si tu savais quel est le don de Dieu, je suis le don de Dieu pour toi. Et ce don est fait par Dieu. C'est un don de Dieu. Mais c'est un don de Dieu pour toi. Dieu en toi. Ah, ce don, la Samaritaine l'a reçu et ça a marqué sa vie et son être tout entier. Ça a tellement marqué cette femme que la ville tout entière est entrée dans le salut. Reconnaître le don de Dieu a un impact en nous, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Comment pourrait-elle garder cette eau vive qu'elle a reçue et laisser les autres se contenter de l'eau du puits de Jacob, rester enfermée dans la transmission de l'homme pour l'homme? Non, elle a reçu le don de Dieu, alors elle l'a partagé. Elle est allée le voir. Moi, je trouve que, comme évangéliste, elle est efficace. Souvent, on en parle avec ma femme. On se dit, mais est-ce qu'on sait évangéliser? Est-ce qu'on sait transmettre? Vous avez des séminaires pour évangéliser. Vous avez des techniques. Vous avez des livres, etc. Et vous savez quoi? Pourquoi pas? Mais cette Samaritaine, elle n'a fait aucun séminaire. Elle n'a pas été diplômée. Comment on appelle ça maintenant? Du dernier diplôme missionnel de l'Église organisé pour les servantes et les serviteurs de Dieu. De quel droit va aller parler aux autres? Du droit d'une femme qui a été confrontée à l'accueil dans sa vie du Fils de Dieu, du don de Dieu. Le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Vous savez que nous sommes dans le chapitre 4. Et que juste avant, il y a le chapitre. Ah, il y en a qui suivent. Merci. Chapitre 3. Le verset le plus connu quasiment des évangiles, c'est au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Les sept premiers chapitres de l'évangile sont étonnamment cohérents. Lisez-les entièrement et vous verrez que du prologue qui dit quel est le don de Dieu, c'est le don du Fils de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et rien n'a été fait sans elle. C'est ça le don de Dieu. Attends, et tu veux habiter en moi, toi? Si, je vais déposer mon esprit qui est à personne de Dieu, qui te révélera Christ tout entier. Alléluia, alléluia. Alors, quel est le don? Ben, je dirais qu'il y a d'abord le don du Père. Quel est le don? Si tu savais le don de Dieu, c'est-à-dire de celui qui va être ton Père, le don du Fils par le Père. Dans l'entretien, juste avant toujours, avec Nicodème, ce vieillard connaissant l'Écriture, Jean a rapporté l'implication du Père en Jean 3,16, ce que je viens de vous lire. Au commencement, il y a eu cette volonté du Père qui a dit « Dieu a tant aimé le monde ». Ce Père a tellement aimé chaque individu qu'il a donné son Fils. Il y a donc un don du Père pour le monde, mais je dirais pas de manière générale, de manière individuelle et personnelle. Il m'a donné son Fils. C'est pour ça que je vous dis, c'est un privilège de préparer des prédications quand vous êtes à votre bureau et que vous écrivez ça. Vous êtes là et vous dites « Waouh !» Après, je ne sais pas si quand je le redonne, c'est aussi formidable. Mais en tout cas, moi, à mon bureau, quand je le reçois, parce que je me l'applique à moi, je me reçois moi-même. Je dis « Mais c'est fabuleux! Le Père m'a donné son Fils !» Alléluia! C'est un don qui englobe à la fois l'incarnation de Jésus, mais aussi sa crucifixion. C'est cela, le don du Père! Le Père envoie le Fils pour sauver le monde, pour me sauver! Et j'aime bien le mettre à titre personnel. Non pas que je me fiche du monde, mais je trouve que si je commence par dire « il vient pour me sauver », ça me fait du bien. Michel a commencé ce culte en parlant de quelque chose d'agréable à entendre, hein, de félicitations, etc. Mais là, c'en est une de taille. Le Père accepte par amour. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'évoque pas assez. Le Père accepte de souffrir. Vous avez déjà pensé à ça ? On entend souvent parler de la souffrance de Christ. Ésaïe, entre autres, en parle, les psaumes en parlent de cette souffrance. Le psaume 22, par exemple, parle de la souffrance de Christ. Mais on ne parle pas beaucoup de la souffrance du Père. Nous tous, nous pouvons comprendre ce que ça peut être. Que vous soyez parent ou pas, vous êtes fils d'eux ou fille d'eux. Et vous pouvez imaginer ce que peut être la souffrance d'un père ou d'une mère. Et le Père accepte par amour de souffrir en donnant son Fils. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile que d'accepter de donner ou de perdre pendant un temps son Fils. C'est toute l'affection du Père qui est mise en avant pour moi. Une affection qui conduira à Jésus, quand un disciple lui demande de leur apprendre à prier, tu pries, commence par dire « Notre Père, ton Dieu devient ton Père. Il a accepté, en m'envoyant, de souffrir dans son cœur de Père, en laissant son Fils. » Et c'est une paternité universelle. Alors, il y a un évangile qui dit « Si tu veux prier, dis Père », et puis l'autre évangile qui dit « Si tu veux prier, dis Notre Père ». J'aime bien les deux formules de chaque évangéliste, parce qu'il y en a un qui dit « Notre », ça veut dire que nous sommes chacun pour notre part, frères et sœurs, parce que nous avons un même Père. Alléluia. Dans Jean, toujours le même évangile, au chapitre 20, verset 17, c'est Jésus qui dit « Mon Père !» Alors ça, on le comprend. Et il continue en disant « Et votre Père ». C'est-à-dire qu'en moi, il devient votre Père comme je suis son Fils. C'est une réalité que Jésus a en vue pendant tout son ministère public, à savoir que sa mission, c'est de communiquer la filiation divine aux hommes et de faire en sorte qu'il soit le Père de tous les hommes. Jésus se considère comme le don du Père, mais un don qui ne s'arrête pas à lui-même et vise à établir un nouveau régime de relation entre les hommes et le Père. Est-ce que tu as cette relation-là avec Dieu ? Est-ce que c'est une relation où tu te dis, effectivement, il est celui qui m'ouvre cette perspective nouvelle, cette relation nouvelle avec Dieu ? Ou bien est-ce que, par le Saint-Esprit, Dieu, c'est le bureau des réclamations, comme chez Boulanger. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a un bureau à Boulanger, à côté des caisses, où on vient pour faire les réclamations, ou rendre ce qui ne fonctionne pas. Ma femme y est allée hier pour changer une prise sur un appareil. Voilà, on y va. Est-ce que Dieu, c'est ça ? Les magasins, il y a un bureau des réclamations. Hein ? Il n'était pas frais, hein, votre poisson, la semaine dernière. Est-ce que c'est ça, Dieu, pour moi ? Ou est-ce que c'est vraiment un don qu'il me fait d'entrer dans une dimension de relation ? Dans la perception juive, Dieu était regardé comme le père du peuple. C'est dans Jérémie 31, 20. Éphraïm est pour moi un fils chéri. Ça veut dire que c'est le peuple tout entier. Mais en tant qu'individu, bah, les Juifs n'avaient pas cette notion-là. Alors que ce verset-là, dit de, Dieu dit par le prophète Jérémie, « Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel, j'aurai pitié. » Et en fait, Chouraki, dans sa traduction, lui qui est très sensible à l'hébreu, dit « Je... » Au lieu de « j'aurai pitié de lui », je le matricerai, c'est-à-dire je le porterai comme une mère porte son enfant dans son ventre. Je le matricerai. Ça, c'est l'amour. Alors, c'est un amour de père et de mère. Mais c'est la dimension de l'amour de Dieu. Alors, le don de l'eau vive, il s'agit de la vie spirituelle. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein » Comme le dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Edmond Rostand, dans la Samaritaine, dit « Boira l'eau de ce puits, aura soif de nouveau. Mais il n'aura plus soif celui qui boira l'eau que je lui donnerai, car en lui naîtra d'elle le bondissement frais d'une eau perpétuelle, de sorte qu'il sera sans fin désaltéré, celui qui boira l'eau que je lui donnerai. » Et la Samaritaine, selon Rostand, dit ceci, « Quoi ? Pour l'éternité ? Mais il change peut-être, c'est l'eau que le prophète Élie a dû connaître lorsque dans le désert, sans boire, il s'en alla si longtemps. Tu souris, mais oui, je sais cela. Tu vois, je ne suis pas tout à fait ignorante. Sans boire, il est resté 40 jours. 40 ! Vraiment ? Tu connaîtrais son merveilleux secret ? J'aime la manière de parler de Rostand ou de faire parler la Samaritaine. Elle dit, quoi, effectivement ? Est-ce que tu peux me donner une eau qui soit à ce point riche qu'elle puisse me faire, semblable à Élie, marcher, avancer, quelles que soient les conditions et la dureté de la vie ? Je disais que les serviteurs d'Isaac, au chapitre 26-19, creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. La Samaritaine a trouvé un puits d'eau vive. Et ce n'était pas celle dans laquelle elle jetait sa jarre. C'était celui qui était en face d'elle. Alors, il y a ensuite le don de l'Esprit. Lorsqu'il dit « si tu connaissais le don », c'est à la fois sa personne, le salut qui va lui faire rentrer dans l'éternité, mais aussi l'envoi du Saint-Esprit. Il vous est préférable que je m'en aille, parce que si je m'en vais, j'accomplis ma mission jusqu'à la croix, à la résurrection, je vous donnerai l'Esprit Saint. Le don de l'Esprit Saint, c'est un don qui parle de l'intimité de Dieu. Hein ? Quand elle dit si, quand Jésus lui dit « si tu savais le don de Dieu », c'est pas simplement je peux te donner la vie éternelle, effacer tes péchés, etc. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce don-là. Il m'a sauvé, mes péchés sont effacés, j'ai la vie éternelle pour l'éternité. Mais la vie éternelle, ce n'est pas après la mort. Souvent, c'est comme ça que c'est entendu. C'est la vie éternelle tout de suite et maintenant. Si tu savais le don de Dieu, parce qu'il peut te donner l'Esprit-Saint maintenant, et que cet Esprit-Saint te permette d'entrer dans l'intimité de Dieu avec toi. L'intimité. Pas simplement, il t'expliquera la Bible, il te dira quelles sont les bonnes choses à faire et ce qu'il ne faut pas faire. On conçoit parfois que le don de Dieu, c'est ça. Et que le Saint-Esprit, quand on dit « il te conduira dans toute la vérité », c'est un esprit qui va dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Non, il te fait rentrer dans l'intimité de Dieu. Ah, j'ai tellement vu dans mon travail, en soignant des femmes alcoolodépendantes, des couples où il n'y avait plus, entre guillemets, d'intimité. Je ne parle pas des relations charnelles, mais d'intimité dans le sens de relation de l'un avec l'autre. Le mari, ça m'est arrivé d'avoir des maris dans mon bureau qui expliquaient ce qu'ils attendaient du soin afin que leur femme redevienne comme avant. Alors souvent, je disais, moi aussi, j'aimerais bien redevenir comme avant, avec 20 kilos de moins, beaucoup plus beau, beaucoup plus jeune. Et ce n'est pas possible. Et en fait, l'intimité, c'était inexistant. Je veux ça, 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 ça. Et parfois, la relation avec Dieu peut être de la même nature. Je veux savoir ce que Dieu veut me dire, qui est bon, ce qui est juste, ce qui est mauvais, etc. Non, ce que Dieu veut dans son don, si tu savais le don de Dieu, c'est que le Père et le Christ ont pour objectif que le Saint-Esprit en toi te donne la capacité d'entrer dans une relation d'intimité avec Dieu, de relation. Un homme et une femme qui sont mariés et qui ne se disent « Tu vas faire quoi à midi pour le repas ?» Bon là, c'est ce que je dis à ma femme souvent. « Qu'est-ce que tu veux manger ce midi hein ?» Mais si ça se limitait à cela, cette intimité n'existerait pas. Le couple existe dès lors que l'amour rend possible la relation intime dans l'échange, le regard, les gestes, etc. Eh bien, Dieu, dans le don qu'il veut faire à l'homme et à la femme, c'est ce don d'intimité. Je veux être intime avec toi. Est-ce que tu as reçu ou est-ce que tu veux rentrer dans ce don-là de Dieu dans ta vie? Le Seigneur, parlant à la Samaritaine, finit par faire que ces paroles prononcées deviennent des paroles de vie et qu'elles rentrent dans une nouvelle dimension. Souvent, je pense à la Samaritaine et à Marthe et à Marie, mais à Marthe. Marthe était comme la Samaritaine. Voilà ce que je sais que je peux te donner quelque chose à toi, Seigneur. Hein, et Marthe disait, je vais te faire cuire du poulet, du pain, etc. Je prépare le repas. Soyons concrets. Et parfois, la relation, elle est dans le concret, comme ça, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Et Jésus dit à Marthe, mais ce n'est pas tellement ce que tu peux faire pour moi qui est important. C'est ce que moi, je peux faire pour toi. Et à la Samaritaine, il dit la même chose. Ce qui est important, ce n'est pas l'eau que tu peux me donner pour étancher ma soif de maintenant. C'est l'eau que moi, je peux te donner et qui te fait rentrer dans l'intimité de Dieu par l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en toi. Est-ce que ce matin, nous voulons rentrer dans l'intimité de Dieu? Alors laissons le Saint-Esprit en nous. Véritablement, c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduire dans une relation profonde et vraie, parce que c'est cela le désir du cœur du Père pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu veux cela? Alors tu peux, comme la Samaritaine, le recevoir et lui dire oui, c'est cela que je désire pour ma vie. Seigneur, puissions-nous être comme cette femme qui vient pour puiser son eau à elle, qui vient avec la certitude que ce qu'elle a, ce qu'elle possède, lui suffit, et qui se trouve confrontée à ta personne, au don que le Père fait au monde et à chaque personne, ce don de son Fils, ce don de l'Esprit, ce désir de tisser un lien de communion et de relation. Seigneur, donne-nous de rentrer volontairement dans ce désir, dans cette relation. Amen.